Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, c'est toujours excitant, mais particulièrement aujourd'hui de vous accueillir avec ma complice Eva Rock. Bonjour Eva.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Dans l'équipe est sauvage, 2 heures de détente informative pour vous, de calvaire compétitif pour eux. Trop longtemps, ils se sont reposés sur leur laurier, mais c'est fini. Comme disait Thierry Lhermitte dans Papy fait de la résistance.
Ah, on va arrêter de se la culer douce. Il va y avoir de la mutation sur les fronts de l'Est. Peut-être pire.
Avec cet accent qui relevait autant du bavarois que du congolais. Oui, fini de rire pour les journalistes de la rédaction d'Europe 1, désormais lancés dans une féroce compétition. Chaque après-midi, un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle dont le sujet vous aura le plus intrigué, sous l'œil complice mais impitoyable d'un invité arbitre de renom, dont la voix comptera triple en fin d'émission. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis tout chose. Puisque nous recevons le jeune prodige du théâtre français, le Mbappé des planches, le seul auteur à la connaissance avec peut-être Shakespeare et Molière à avoir 4 pièces jouées simultanément dans la même ville à Paris, le porteur d'histoire au théâtre des Béliers, Intramuros à la Pépinière, le cercle des illusionnistes qui revient aussi au théâtre de l'œuvre et Edmond au théâtre du Palais Royal. Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour, bonjour.
Comme vous aviez un peu de temps entre 2 pièces, entre 2 films, puisque vous êtes aussi réalisateur, vous avez écrit un roman de 650 pages, évidemment, Loin, paru chez Albin Michel. Comme vous avez plus de place pour les Molières sur la cheminée, vous vous êtes dit, je vais aller chercher le Goncourt.
Oui, voilà, c'est complètement mon moteur, hein. Ce sont les récompenses, donc c'est pour ça que j'écris ce roman. Non, pas du tout, évidemment.
On parlera de votre modestie tout à l'heure, c'est vrai que les récompenses, vous ne courez pas derrière, elles vous arrivent quand même, hein.
Ouais,
ça fait quand même plaisir.
Ça fait toujours plaisir, on ne se plaint pas.
On va parler de ce roman, de votre univers, de votre amour pour le théâtre populaire au sens noble du terme, parce que vos pièces, il faut le dire, sont hyper accessibles. Mais d'abord, je vous présente l'équipe. À mes côtés, elle a longtemps cru que Macbeth était un modèle chez Apple, que Lorenzaccio était un attaquant du Milan AC. Je vous présente Eva Rock. Ça va, Eva?
Et il faut que je réponde là,
oui.
Vous avez encore balancé
non,
un
non,
ça
va, je vous demande tout simplement si ça va.
Avec cette introduction, vous pensez que je vais vous dire oui?
Je vous mets bien pour que notre invité vous cerne plus facilement.
Oui, je vais très bien. Enfin, j'allais très bien.
À vos côtés, nos 2 premiers journalistes en compétition aujourd'hui. 2 hommes, 2 styles. Et aussi 2 gros dossiers que nous n'allons pas déflorer tout de suite. Disons simplement, Alexis Michalik, qu'avant d'embaucher Anis Mbida dans une de vos productions, il faudra qu'il travaille un peu sa diction. Toi-même, tu sais ce que nous allons entendre tout à l'heure. En attendant, Anis, avec quel sujet allez-vous tenter de l'emporter aujourd'hui?
Je vais essayer avec un sujet qui, je l'espère, va vous passionner, puisque c'est un des plus grands fantasmes de l'humanité. Pour la première fois, on a réussi à inverser les effets du vieillissement.
Ah ça, effectivement, la cure de jouvence, on y pense tous. Vous partez gagnant sur ce sujet-là, c'est quand même, ça peut intéresser tout le monde. À ses côtés, Alexis Michalik, en matière de casserole, c'était même plus un dossier qui attend notre expert éco Axel de Tarlé, c'est une saga en 12 volumes, puisqu'en effet, c'est un scoop européen. Après des mois d'investigation, nous avons enfin retrouvé les bandes du groupe Venin, ce groupe de rock tendance punk dans lequel Axel officiait dans sa jeunesse en tant que lead singer toute une époque.
Argent trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix.
Quand, comment, pourquoi, les questions se bousculent dans vos têtes. Pourtant, il nous faut avancer, Axel. Aujourd'hui, vous avez remis votre Gibson. Et ce sont les courbes du CAC 40 qui vous excitent. Avec quel sujet économique concernant allez-vous séduire nos auditeurs aujourd'hui?
D'abord, c'est épouvantable. Je me rends compte que je chante mal.
Pas du tout,
c'est un mur qui s'effondre. Par ailleurs, oui, aujourd'hui, je vais vous parler des taux négatifs. Vous savez, on en parle depuis des mois, des années. Ouais. Eh bien, ça y est, pour la première fois, ça s'applique aux particuliers. Une banque française applique aux particuliers les taux négatifs. Vous allez voir, ça va déménager dans vos comptes courants.
Et donc, c'est pas une bonne nouvelle?
Ah non, c'est pas une bonne nouvelle.
Moi, si on ne rajeunit pas, on va vieillir d'un coup, là.
Voilà pour le programme, l'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Alexis Michalik, le prodige du théâtre français, nous accompagne cet après-midi. Alors Alexis, on va parler de votre livre, ce premier roman que vous signez chez Albin Michel, intitulé « Loin ». Mais avant toute chose, comme tout le monde hélas ne va pas au théâtre, on va détailler quand même ce qu'est le phénomène Michalik. C'est 4 pièces qui se jouent, je le disais, simultanément depuis plus de 3 ans. 4 pièces dont vous avez forcément entendu parler, Intramuros, Le Cercle des Illusionnistes, Le Porteur d'Histoire ou Edmond. 4 pièces brillantes, mais où on ne s'ennuie pas une seconde, où les rebondissements s'enchaînent. Comment vous définiriez votre théâtre à quelqu'un, si ça existe encore, qui ne connaît pas Alexis Michel?
C'est très gentil, merci pour cette introduction.
À la Michel Drucker.
Voilà, tout à fait. Je dirais que c'est un théâtre populaire et exigeant, c'est un théâtre de compagnie, c'est un théâtre où il n'y a pas de vedette, si ce n'est le spectacle. Et puis, je pense que, en tout cas, moi, ce que j'essaie de faire, c'est un théâtre qui me permet d'utiliser toutes mes influences, et mes influences, elles ne sont pas que théâtrales, elles viennent aussi de la série, elles viennent aussi du roman, elles viennent aussi du cinéma, et Et donc c'est une sorte de théâtre sériel, quoi, où on suit une histoire et on ne sait pas ce qui va se passer à la fin. Et donc quand on en sort, on n'a pas trop envie de dévoiler la fin à ses amis. Et si ça nous a plu, en tout cas, on a envie de leur dire juste va voir le spectacle. Et c'est comme ça que ces spectacles durent depuis des années.
Si je vous dis qu'il y a du Alexandre Dumas chez vous, ça vous flatte, ça vous
Bien
plaît
sûr.
Ça, c'est une référence importante pour vous?
Évidemment, c'est un des auteurs préférés de ma mère. Moi, j'ai découvert Dumas quand j'étais ado sur une plage en lisant Le Comte de Monte Cristo et en étant complètement happé par sa capacité à tenir le lecteur en haleine. Et c'est et dans Loin, en tout cas dans mon roman, il y avait vraiment Dumas en tête. Je voulais faire modestement un bon roman d'été.
Eva, est-ce que vous avez retrouvé Dumas dans ce roman?
Ah mais oui, tout à fait. Et puis surtout, c'est que j'ai retrouvé votre univers théâtral, en l'occurrence, avec ce que vous disiez du rythme. C'est à la fois un roman d'aventure, c'est un récit historique, c'est une leçon de géographie parce qu'on parcourt toute l'Europe.
Je disais 650 pages, c'est un page-turner,
hein,
c'est-à-dire que vous ne les sentez pas passer du tout. Ça.
C'est un précis de psychologie aussi, et puis un conte philosophique surtout, en tout cas pour moi. Il y a de l'humour, des engueulades, de l'émotion, un peu de sexe aussi, donc, ce qui est très parfait pour nous.
Ça ne m'a pas déplu, je crois.
Ça ne m'a pas du tout déplu, mais évidemment, on l'imagine en série. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que vous ne l'adaptiez pas. En l'occurrence, je pense à une plateforme de type Netflix, mais voilà.
Visiblement, ils y pensent aussi chez Netflix.
Oui, enfin, pas eux, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est sûr que mais c'était l'intention à la base. Avant de faire un roman, c'était une série dans ma tête il y a 10 ans.
Et je me suis rendu compte que ça coûte très, très cher comme série.
Je pense que c'est pour ça que j'en ai fait un roman. Je me
suis dit
quel est le moyen le plus économique de raconter cette histoire. Et ben, ça reste de la poser sur papier. Et puis surtout de me laisser une liberté totale dans le récit. Donc voilà, je m'y suis collé. Et 10 ans plus tard, le roman existe.
Ces pièces Triomphe au théâtre, il publie son premier roman Loin chez Albin Michel. Alexis Michalik passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Il y a seulement quelques mois, il régnait dans la rédaction d'Europe 1 une ambiance festive et rieuse. Des 5 à 7 s'organisaient même dans la salle de repos, de laquelle Axel de Tarlet ressortait souvent en s'exclamant
« À fond la forme, tadadam !»
Hélas, il a suffi de 3 semaines pour qu'on passe de Phédo à Sophocle. Du boulevard à la tragédie grecque, puisque désormais mis en compétition, les journalistes d'Europe 1 se déchirent chaque après-midi au service de votre culture G. Un seul l'emportera. À suivre, la pilule de jouvence. On l'attend depuis 3 millénaires. Eh bien, accrochez-vous, elle vient d'être testée et elle réduirait l'âge biologique de 2 ans et demi. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, nous sommes en 2019 et ubérisation oblige, on peut désormais noter les chauffeurs de taxi, les livreurs de sushis, mais aussi les journalistes. Bienvenue dans l'équipe est sauvage, 2 heures d'un pugilat moderne sans coudière ni coquille au service de votre érudition et de votre bonne humeur. 4 journalistes s'affrontent, un seul sera élu chroniqueur du jour. Sous l'œil de notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est l'auteur prolifique Alexis Michalik qui nous accompagne. Si vous pensiez encore que le théâtre c'était ça...
Vous êtes diabolique maîtresse, mais y a-t-il plus de ces mécréants qui vous haïssent? Pourtant, ils ont été vos amis.
Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi.
Oubliez ça. Foncez voir les pièces d'Alexis Michalik. Edmond, par exemple, se joue actuellement au théâtre du Palais Royal. Alexis Michalik, vous publiez également votre premier roman, Loin, chez Albin Michel. En cette période de rentrée, c'est un roman qui permet en quelque sorte de repartir en voyage.
Oui, c'est ça. Bah, vous avez le slogan d'Albin Michel.
C'est vrai? C'est le slogan de votre éditeur?
En ce moment, ouais, vous êtes bien rentré, vous allez repartir. Oui, absolument. On a discuté un peu, est-ce qu'on le sort avant l'été ou est-ce qu'on le sort en rentrée littéraire? Moi, j'avais pas la prétention de vouloir être dans la classe de la rentrée littéraire et tout ça. Je disais non, ce serait bien qu'on puisse l'emmener en vacances, etc. Bon, bah, finalement, Albin y a cru. Ça se passe bien. Donc, tout le monde est content.
Et vous êtes dans la liste des romans Renaudot pour les lycéens, c'est ça?
Oui, le prix tout à fait. Renaudot et Renaudot lycéen, donc c'est très chouette, on est ravis.
Pour un premier roman, c'est très beau. Loin chez Albin Michel, on continue d'en parler ensemble, mais l'heure est venue d'entrer dans le vif de la compétition. Avec un concurrent qu'on imagine fébrile cet après-midi, car il sait ce qu'il attend. Il n'a pas oublié son dérapage buccal de lundi face à Dave, l'inoubliable interprète de Vanina, dont le regard, peut-être un peu trop insistant, en tout cas profondément déstabilisé, Anissé Mbida, d'ordinaire peu prompt à s'en mêler les pinceaux, surtout sur une phrase simple, au présent.
Oui, un sujet d'actualité, puisqu'aujourd'hui et demain sont en train de passer... Je sais même plus comment j'en suis. Aujourd'hui et demain sont...
Sujet d'actualité, donc, Anissé.
Oui, parce que vous savez qu'aujourd'hui et demain sont en train de passer...
Passons, t'es sacrément déstabilisé par Dave. Je veux dire, je t'ai jamais vu déstabilisé comme ça.
Et vice versa.
On embrasse Dave. Heureusement pour vous, Anissé, vous venez aujourd'hui avec un sujet très fort, mais très très fort, la pilule de jouvence. Pour la première fois, on aurait réussi à inverser les effets du vieillissement.
Eh bien, vous avez peut-être déjà entendu parler, peut-être dans une de mes chroniques, de toutes ces expériences hein, où on avait réussi à rajeunir soit des cellules, soit des animaux. Par exemple, une petite souris de 2 ans, hein, 2 ans c'est l'équivalent de nos 80 ans humains, à qui on aurait donné une petite pilule magique et elle pouvait retrouver la même vigueur, la même forme, le même pelage que tous ses congénères de 6 mois, donc elle a rajeuni de 2 ans. Eh bien, pour la première fois, on vient d'observer exactement les mêmes résultats chez l'homme. C'est une étude qui vient d'être publiée dans la revue Nature. On a pris un groupe de seniors qui sont âgés de 50 à 65 ans et pendant un an, on leur a fait prendre non pas une, mais 3 pilules. On leur a fait des analyses de sang régulières et surprise, on a constaté que leur horloge biologique, hein, les signes, les indicateurs du vieillissement, avaient été remontés de 2 ans et demi. Et c'est la première fois qu'on constate ça chez l'homme.
Qu'est-ce qu'il y avait dans ces pilules alors ?
Eh bien, il y avait une hormone de croissance et 2 anti-diabétiques, donc rien que des médicaments courants, il n'y a pas une molécule magique. Et en fait, l'objectif, c'était même pas de tester le potentiel, enfin un potentiel élixir de jouvence, mais de savoir si on pouvait régénérer le thymus. Alors le thymus, c'est une glande qu'on a entre les poumons et qui est très importante pour combattre les infections ou le cancer. Mais le problème, c'est que cette glande, à partir de l'adolescence, elle a tendance à dégénérer. Donc on voulait simplement régénérer ce thymus, mais donc on a peut-être découvert complètement par hasard prémices d'un médicament qui repousserait les effets du vieillissement. Les effets du vieillissement, c'est l'arthrose, la perte de mémoire, la fragilité des os, etc.
Alors, Anissier, je suis extrêmement excité. Est-ce que cette histoire ne va pas encore faire pchit ?
Oui, parce qu'à chaque fois qu'on parle de ce genre de nouvelles, on dit... Alors, c'est vrai que c'est une étude qui a été faite que sur une dizaine de personnes. On attend de la faire sur beaucoup plus de monde pour vérifier que ça fonctionne bien, bien contrôlée par des experts. Mais au-delà de ça, moi, j'ai une question à vous poser à tous. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à ce qu'elle marche, cette fameuse pilule de jouvence ?
C'est une question éthique.
Simone de Beauvoir disait « Vivre, c'est vieillir, rien de plus ». Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux inciter les gens à vivre plus sainement pour vivre plus longtemps, plutôt que de les pousser à brûler la chandelle par les deux bouts en espoir de cette fameuse pilule magique de jouvence ?
Si vous avez 4 heures pour répondre à cette question. Si en plus vous invitez Simone de Beauvoir dans vos chroniques scientifiques, vous allez l'emporter, Anis. Et Alexis Michalik, vous pourriez le secret de la cure de jouvence, c'est quelque chose qui pourrait vous inspirer ou vous évitez plutôt le surnaturel ?
Ah non, j'adore. Non. Bah là, c'est pas du surnaturel. On est carrément dans la réalité.
Possible.
Non, moi j'adore tout ce qui est anticipation, Black Mirror.
Ah, Black Mirror.
Bah ouais, c'est une mine pour les scénaristes, quoi, parce que forcément, ça ouvre des perspectives passionnantes. Non, j'adore.
Merci Anis Mbida. On pourrait s'arrêter là. Mais non, vous connaissez mon sadisme légendaire. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Axel de Tarlé.
Bon, moi je vais rabaisser le débat hein, face à tant d'intelligence avec une question people, ou plutôt célébrité. Si Mathieu Noël ou Alexis Michalik prenaient cette pilule de jouvence qui rajeunit de 2 ans, quel âge aurait-il ?
Oh, c'est vache !
Alors, pour Mathieu Noël, étant né en 83, on arrive à 80...
Non, c'est votre femme qui est née en 83. Vous me confondez souvent avec votre femme. C'est 82 et c'est la même année qu'Alexis Michalik.
Oui.
Donc, vous, le scientifique, ça fait combien ?
Bah, 30... moins 2. Donc, ça fait 34 ans.
Ah oui, bien joué.
Une pilule pour gagner que 2 ans et demi, c'est pas...
Bah, ça vous fait quand même 27 ans, ça serait pas mal.
Oui.
On la reprend dans 2 ans et on gagne 2 ans.
Oui, d'accord. Bon.
Ces pièces à succès sont toutes visibles simultanément à Paris. Du Porteur d'Histoire à Edmond, il publie Loin, son premier roman, chez Albin Michel. Alexis Michalik est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue, 2 heures de bonne humeur, parfois potache, mais toujours nappée d'une délicate couche de savoir et d'un zeste de compétition. Puisque chaque après-midi, nos journalistes se surpassent pour vous plaire et taper dans l'œil de l'invité du jour, dont le vote comptera triple en fin d'émission, note tout de même aux compétiteurs, attention à ne pas en faire trop. Hein, quand c'est trop gros, comme Anissé face à Dave lundi, bah ça se voit.
Et sans faire de la lèche, c'est très moderne et j'aime.
Le micro est pas ouvert, calmez-vous, dites ça tout à l'heure.
À suivre, avant, votre banquier vous appelait pour vous gronder quand il n'y avait pas assez d'argent sur votre compte. Avec les taux négatifs, il va bientôt vous gronder s'il y en a trop. C'est pas une blague, Axel de Tarlé vous explique ça juste après. Reste, Gims et Sting sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël. C'est avec un plaisir non fin que je vous accueille dans l'équipée sauvage, la première émission qui vous permet de noter les journalistes en fonction de la qualité de leur sujet. Attention tout de même, l'ubérisation a ses limites que j'ai fixées. Vous ne pouvez pas me noter, moi. Hein. Dommage, se diront sans doute nos auditeurs d'hier,
dommage,
à qui j'ai fait
oui.
forte impression, notamment dans mon exercice de prédilection, l'interview. Une interview toujours dense et informée, si dense et si informée qu'elle fait plusieurs pages. Or, parfois, sur 2 heures, il arrive que je m'emmêle entre ces pages. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon « avoir le cul entre 2 feuilles ». Le résultat n'est pas joli joli et peut parfois déboucher sur des questions, disons, étonnantes. Comment vous négociez cette timidité sur la manière d'incarner le JT au niveau de l'habillement ?
Oh,
Oui, parfois je me demande pourquoi je ne suis pas devenu Alexis Michalik, et puis parfois, je comprends. Il est le jeune prodige du théâtre français, ses pièces phares, Le Cercle des Illusionnistes, Intramuros, Le Porteur d'Histoire ou encore Edmond vont être joués simultanément dans 4 théâtres à Paris, mais c'est pour un roman, votre premier roman que vous nous rendez visite cet après-midi, Alexis Michalik. Il s'intitule Loin chez Albin Michel. Déjà, pourquoi passer au format du roman ?
Eh bien, pour des raisons économiques. Non, parce que tout simplement, moi, on va dire que les histoires s'emparent de moi. Elles arrivent par divers biais, et ensuite, je les développe dans ma tête. Et à un moment, en fait, elles arrivent à maturation, et je me dis, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Est-ce que c'est un film ? Est-ce que c'est une pièce ? Ou est-ce que c'est, comme le cas de Loin, un roman ? Et comme c'était un roman d'aventure qui, je savais, allait être assez long, assez ample, et allait traverser à la fois les pays et les siècles, enfin, pas les siècles, mais en tout cas les années, les périodes, les époques, je me suis dit qu'il fallait que le plus simple pour raconter cette histoire, ce serait de l'écrire tout simplement de manière directe au lecteur. Et c'est comme ça qu'est née cette idée-là. Bon, après, quand je me suis rendu compte de l'ampleur de la tâche au quotidien, il y a eu des moments où je l'ai regretté. Mais quand j'ai fini par inscrire le mot fin 3 ans après l'avoir initié, j'en étais pleinement satisfait.
Vous écrivez comment, Alexis Michalik ? Vous vous dites aujourd'hui, de telle heure à telle heure, j'écris quoi qu'il arrive, quelle que soit l'inspiration, ou vous attendez d'avoir l'inspiration et vous écrivez tout en une nuit ?
Non, comme je cumule quand même plusieurs autres métiers, on va dire, cousins, mais la mise en scène, je joue, je fais plein de choses, donc je n'ai pas tout le temps l'esprit libre pour écrire, et il faut que je l'aie cet esprit libre, surtout pour un projet comme Loin, qui était un peu, je ne vais pas dire mon projet annexe, mais qui était quand même quelque chose que j'ai écrit pendant que je montais d'autres spectacles, Edmond, que je réalisais le film, etc. Donc vraiment, c'était quand j'avais l'espace nécessaire de l'écrire, et souvent, c'était quand j'étais en voyage. Par exemple, quand je suis en tournage dans un autre pays et que je vais tourner 2-3 jours par semaine, et le reste du temps, j'ai du temps, j'ai pas de pièces qui se jouent, j'ai pas d'acteurs à embaucher ni à former, et donc grâce à ce temps libre, je peux le consacrer à l'écriture.
Oui, mais alors moi je veux bien que vous écriviez quand vous êtes en voyage, mais vous n'avez pas une bibliothèque à côté d'où, parce qu'en l'occurrence votre roman est hyper documenté sur tous les pays qu'on traverse. Je pense qu'il y en a une quinzaine au bout du compte entre
l'Europe et l'Afrique. Vous les avez tous visités, ces pays, ou vous avez voyagé par Instagram ?
Alors non, j'en ai visité une partie, et puis les autres, Instagram justement, ou Wikipédia, enfin grâce à l'internet.
Parce que c'est très documenté, hein. Oui, toutes les périodes historiques que vous évoquez, je pense notamment à la chute du mur, etc. Enfin, il faut quand même avoir tout ça en tête, c'est pas.
Oui, mais ça, mes pièces précédentes sont aussi tournées vers l'histoire. Moi, je suis passionné d'histoire, donc c'est la documentation, c'est plutôt un plaisir, à vrai dire, justement, à chaque nouveau chapitre, je me disais, à quoi je m'attaque maintenant, quelle nouvelle culture, quel nouveau pays, quelle nouvelle période, et je plongeais dedans. Et c'est pour ça que ça prenait du temps aussi, parce qu'à chaque fois, il fallait repartir sur un nouveau sujet, quoi.
Passionné d'histoire, ça on le savait déjà depuis vos pièces. Passionné aussi de philosophie, il y a des questions philosophiques qui traversent le livre. Alors, vous avez une phrase qui est amusante et surprenante. Vous dites « Je n'ai pas l'air intelligent, j'ai une tête de surfeur, pas d'intellectuel. Certains amis ont été surpris que je puisse avoir un point de vue de philosophe sur certaines questions. » Alors, soit vos amis n'ont pas vu vos pièces.
Non,
bien sûr, mais ça vous l'avez dit en interview. Mais soit vos amis n'ont pas vu vos pièces, soit, enfin, parce qu'elles étaient déjà assez denses intellectuellement, vos pièces quand même.
Oui, enfin, ça dépend. Enfin, disons que dans un livre, on a le temps de développer des idées que dans une pièce, forcément, on a 2 heures. C'est juste mathématique, c'est plus court, quoi. Mm-hmm. Donc, il y a certains passages où les héros dialoguent et parlent de leur vision de la vie. Et forcément, j'ai plus de temps de développer certaines idées qui, moi, dans les pièces, je suis quand même un peu connu pour mon efficacité narrative. Et donc, je ne m'attarde pas à discuter, à philosopher, quoi.
Et là, vous pouvez plus vous le permettre. Loin, c'est son premier roman. Alexis Michalik est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue et je vous remercie. Vous avez été nombreux à me demander comment s'était passée ma visite médicale avec le médecin du travail hier. Eh bien, impeccable. Le docteur a un peu échangé avec Arnaud Lagardère, mon patron, à l'issue de la consultation. Et il semblerait qu'il n'ait rien trouvé.
Docteur, il faut me débarrasser de lui. Je suis sûr qu'il serait mieux à l'asile.
C'est un asile de fous, pas un asile de cons. On pourrait construire des asiles de cons, mais... Vous imaginez un peu la taille des bâtiments.
Et il était sympa ce docteur. Bref, à suivre. Avec les taux négatifs, va-t-il bientôt falloir payer une taxe quand on aura trop d'argent sur son compte en banque ? Ça ressemble à un sketch de Raymond Devos, mais c'est pourtant ce qui nous attend demain dans certaines banques. Lesquelles ? Axel de Tarlet nous le dévoile, à tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue 2 heures pour chatouiller vos zygomatiques tout en piquant votre curiosité. Pour ce faire, nous avons eu l'idée sadique mais efficace de mettre en compétition les meilleurs journalistes d'Europe 1, les plus érudits, les plus cinéphiles, comme comme Anis Mbidar.
Glou 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 glou. Ça, c'est la soupe au chou, tu vois.
Oui, je vois. Bref, vous votez via Twitter pour votre chronique préférée, sachant que la voix de notre invité d'honneur compte à triple aujourd'hui. C'est le Petit Prince du théâtre français, l'esprit de Molière, le corps de Kelly Slater. Alexis Michalik nous accompagne jusqu'à 18h. Vous passez un bon moment, Alexis, pour l'instant, ça va?
Très bon, merci.
Alors, parce qu'à la vitesse où vous écrivez, on se dit qu'en vous accaparant pendant 2 heures, vous êtes peut-être en train de passer à côté d'un chef-d'œuvre. C'est ce que je me dis, je culpabilise quelque
c'est
part.
Vrai.
Je soulignais votre humilité tout à l'heure, humilité méritante quand on a à son actif, je ne sais même plus combien de Molière, c'est stupéfiant, rien qu'en 2017 pour Edmond.
805,
rien que pour Edmond. Molière du théâtre privé, Molière de l'auteur francophone vivant. Ah oui, ça c'est bien qu'il soit vivant quand même. Molière du metteur en scène aussi, car vous êtes aussi metteur en scène. Moi, franchement, je serais. Si j'avais. Mais évidemment, la musique des Molières. Si j'avais votre CV, je serais sur une banane géante dans une piscine à débordement à Malibu en train de crier.
Je suis le maître du monde.
Et vous, Alexis Michalik, vous continuez de bosser avec peut-être moins d'appréhension qu'avant, ça sert à ça les...
Non, mais entre 6 et 9 le matin, je suis sur ma banane, effectivement, en train de chanter. Mais sinon, le reste de la journée, il faut bien faire autre chose. Oui, je continue à bosser parce que c'est quand même un métier de passion, quand même. C'est quand même merveilleux. Je suis pas dans la finance, quoi.
Vous pourriez être inversement tétanisé par la pression. C'est-à-dire que quand on attend de Molière, la pièce suivante, j'imagine qu'elle est scrutée, elle est analysée.
C'est vrai, mais bon. En vrai, enfin, je veux dire, c'est pas grave, quoi. Déjà, la dernière pièce que j'ai faite, Intramuros, on n'a pas eu de Molière, pas de nomination. La pièce s'en porte bien quand même.
Oui, elle tourne très bien aussi.
On est toujours content. Moi, en tout cas, la motivation, elle est pas là. La motivation, c'est vraiment de continuer à faire des spectacles, de me renouveler, de raconter les histoires qui m'émeuvent. Et puis, si le public suit, c'est tout ce qu'il me faut.
On recevait Amélie Nothomb il y a quelques jours qui nous disait qu'elle avait une cinquantaine, je crois, de romans qui n'étaient pas publiés, qu'elle avait dans ses tiroirs. Est-ce que vous aussi, vous êtes prolifique au point d'avoir des pièces en stock?
Oui. Bien sûr. Enfin, pas que des pièces d'ailleurs, des scénarios, des romans de jeunesse, tout ça, ouais, bien sûr.
Et vous vous ennuyez parfois ou pas ?
Oui, c'est justement l'ennui qui motive motive l'écriture, parce que quand je m'ennuie, l'imagination revient et donc du coup j'essaye absolument de m'ennuyer. Je vais beaucoup en vacances.
Et ça marche jamais en fait.
Bah si, ça marche.
Ça marche tout le temps puisqu'il crée. C'est bien de l'expliquer.
Oui, mais donc l'ennui n'existe pas en fait. Vous êtes tout le temps en train de cogiter.
Il trompe l'ennui.
Ouais.
Par l'écriture. Alexis Michalik, on continue de parler de vos pièces et de votre roman Loin chez Albin Michel. Mais l'heure est venue de vous présenter un personnage éminemment romanesque. Les auditeurs de la matinale d'Europe 1 ont de lui l'image du journaliste économique sérieux et appliqué. Mais savent-ils que dans sa jeunesse folle, sous Giscard, Axel de Tarlay était un punk à chien. Un fou, un déglingo de la teuté et surtout une bête de scène avec son groupe de métal, Venin. À côté, Marilyn Manson, c'est Chantal Goya. Longtemps, Axel s'est refusé à me livrer les cassettes de ce groupe mythique. Heureusement pour lui, je ne les ai pas trouvées. Malheureusement pour lui, ignorant la fonction dictaphone de l'iPhone, Axel s'est fait piéger hier par mon assistant Sébastien qui lui demandait comme ça « C'était comment au fait, Venin ?»
Petit et rien, tout allait bien, il ne nous manquait rien. Quand descendirent du ciel des rayons mortels, nous vivions le martyr, c'était le pire. Non, délire.
Il n'y avait pas de parole entre non et délire, c'est ça, c'était le texte originel.
Et après, il y avait le refrain.
Oui, alors ça sera pour la prochaine fois le refrain, parce qu'on me fait signe qu'on n'a plus le temps. Axel, maintenant que notre invité Alexis Michalik situe un peu mieux le personnage, je vous laisse nous livrer votre chronique du jour sur les taux négatifs. Changement de décor.
Je vais vous parler de finances.
On peut quand même vous faire confiance.
Oui, parce que les taux négatifs, on en parle depuis des mois. Alors jusqu'à présent, ça s'appliquait aux États, à la France, ça s'appliquait aux entreprises. Et bien là, pour la première fois, ça s'applique aux particuliers, puisqu'il y a une banque française qui annonce qu'elle va pratiquer, elle va infliger des taux négatifs à ses clients particuliers. Alors ça veut dire quoi ?
Et ben alors on va retirer l'argent.
Exactement. Et ben voilà, donc c'est une banque privée pas très connue qui s'appelle Lombard Odier. Elle a fait savoir à tous ses clients particuliers qu'au-delà de 1 million d'euros sur le compte courant...
Ah, Alexis, attention, voilà. Attention.
Ouais, on commence doucement. Hein. Elle pratiquerait les taux négatifs, c'est-à-dire qu'elle prendrait de l'argent à ses clients. Il faut savoir que ça se pratique déjà chez nos voisins. En Allemagne, il y a des banques, au-delà de 100 000 euros, elles pratiquent les taux négatifs, c'est-à-dire qu'elles se serrent et elles vous prennent de l'argent parce que vous avez eu le malheur de laisser trop d'argent sur votre compte
Mais
courant.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire de cet argent alors ?
D'où cette image. Autrefois, votre banquier vous appelait quand vous n'aviez pas assez d'argent sur votre compte en banque. Maintenant, il vous appelle pour vous gronder quand vous avez trop d'argent sur votre compte en banque.
Mais là, on parle du compte courant. Si on place l'argent.
Courant. Oui, alors, si on place l'argent, évidemment, et dans des actions, bah là, il n'est plus sur le compte courant. Mmh. Non, ce qu'on veut pousser les gens à faire, c'est à, justement, c'est la Banque centrale. Quoi. Oui, exactement, qui dit, mais votre argent, ne le gardez pas en banque, dépensez-le pour relancer l'économie. En Europe, il y a trop d'épargne et il n'y a pas assez d'argent qui circule, qui va dans les magasins, qui va dans les entreprises. Et donc, c'est pour ça que la Banque centrale veut dissuader les gens de faire de l'épargne. Et donc, elle inflige des taux négatifs qui, maintenant, se répercutent pour les particuliers. Et il ne faut pas croire que ça va être quelque chose de passager. Il y a Alain Minc, le vendredi dernier, dans Les Échos, qui expliquait que c'est une situation qui va être durable.
Le mec faisait du rock, il cite Alain Minc maintenant. C'est quand, même, c'est quand même un changement d'époque totale pour Axel.
Alain, si tu m'écoutes, non ?
Est-ce que ça vous inspire une chanson, surtout ça ?
Mais oui, mais c'est bien. Je vais vous dire pourquoi je chantais Argent trop cher, parce que maintenant, avoir de l'argent, ça coûte très cher. Eh bien oui, avoir de l'argent,
en avant sur
ça coûte
temps.
Cher. Et c'est pour ça qu'on vous ponctionne votre argent.
Et alors, voilà. Sur quoi on peut investir ? Quel type de placement sont intéressants actuellement.
En Allemagne, ils sont furieux parce que les Allemands sont de grands épargnants et ils voient maintenant quand on laisse son argent à la banque, on vous le prend. Donc vous savez que le président de la Banque Centrale Européenne a fait la une du Bild, qui est l'équivalent d'aujourd'hui en France chez nous, avec le président de la Banque Centrale Européenne maquillé en Dracula, il le surnomme le comte Dragila, parce qu'il s'appelle Mario Draghi, accusé de sucer l'épargne des Allemands qui essayent de mettre un petit peu de côté. Oui, c'est le problème, c'est qu'on ne sait plus épargner, mais c'est ce que veut la Banque Centrale Européenne. Elle ne veut plus que vous épargniez, elle veut que vous empruntiez au contraire. Alors là, si vous empruntez, elle va vous dire, bah, écoutez, c'est très bien, vous empruntez 100 et vous n'aurez que 99 à rembourser.
Bah,
vous voyez, on donne un bonus aux emprunteurs et un malus aux épargnants.
Et c'est pas risqué, ce genre de politique des taux négatifs ?
Bah si, bien sûr, il va y avoir des bulles qui vont se créer. Parce que si vous voulez, quand vous empruntez, qu'est-ce que vous allez faire tout cet argent ? Bah, vous allez notamment le mettre dans l'immobilier. Donc tous ces milliards-là se déversent dans l'immobilier. Il y a des tas de gens qui disent, regardez, déjà à Paris, on est à 10 000 euros du mètre carré. Mais si vous continuez à pousser les gens à investir, enfin à emprunter pour mettre en bourse ou en immobilier, vous allez avoir des bulles immobilières, des bulles en actions et tout ça va mal se terminer. C'est pour ça que cette politique est critiquée, notamment en Europe du Nord, car jugée d'abord ruineuse pour l'épargnant et dangereuse pour la stabilité du pays.
Sincèrement, il y a beaucoup de gens qui ont 1 million sur leur compte courant ?
Non, mais ça baisse tout doucement. Je vous dis, en Allemagne, c'est au-delà de 100 000 euros.
Bah même 100 000 euros, je trouve ça énorme.
Eh bien si, parce que comme l'épargne ne rapporte plus rien, que l'assurance vie ne rapporte plus rien, les gens qui ont beaucoup d'argent,
ils
ont tendance
tout,
à se dire, bah, finalement, ce 1 million d'euros, au moins, en compte courant, je ne risque pas de le perdre. Parce qu'en ce moment, l'épargne est très difficile avec ces taux négatifs. L'épargne ne rapporte plus rien.
Alexis Michalik, est-ce que vous avez le temps de gérer votre argent ?
Est-ce que vous avez 1 million sur votre
compte ? Non,
on imagine la réponse. Mais est-ce que vous avez le temps de vous en occuper ? Ou j'imagine qu'avec tout ce que vous écrivez tout le temps.
Eh bien, figurez-vous que j'ai un restaurant à Montpellier qui s'appelle le Lipopette. J'en profite pour en parler.
Bon,
enfin, qui n'est pas du tout le mien, mais non, j'ai un ami qui a ouvert son resto, donc j'ai investi.
Vous avez investi. Ah, c'est bien. Donc vous réinjectez l'argent dans l'économie.
Ouais, par exemple.
Voilà, vous avez les félicitations de Mario Draghi.
Draghi là. Je viens de recevoir un texto de lui.
Il est très content. Et c'est l'heure quand même d'écouter la question vache de l'autre chroniqueur, en l'occurrence Anissé Mbida.
Allez, je vais quitter un petit peu la finance. Je vais demander à Axel comment s'appelait le choriste spécial du groupe Venin. Est-ce que c'est pas un certain... On a vu tourner une photo, vous vous souvenez pas ? Jean-Pierre Raffarin n'était pas dans le groupe Venin à une certaine époque.
Ça fait pas du tout, mais on a tous mal tourné parce qu'il y en a un, le batteur, qui est maintenant il est au Brésil dans la banque chez BNP
Paribas.
Mais
au Brésil quand même, il a gardé un petit côté funky.
Voilà, et le guitariste, il est avocat européen à la Cour européenne de justice.
Oh la vache, je sais pas quoi. Alors lui, si on ressort son dossier, ça va lui faire
Xavier Tracol, si tu m'écoutes.
Je peux le citer, il voulait rester masqué. Merci Axel de Tarler, votre chronique mérite-t-elle 3 points ? Déjà beaucoup d'appels au standard pour demander la cassette audio du best-of de Venin.
Europe 1.
Eva Rock, Axel de Tarler, Anissé Mbida sont à mes côtés. L'équipe est sauvage continue 2 heures pour évacuer le stress de la journée sans pour autant mettre votre cerveau en veille, sauf sur la séquence qui suit. Là, on l'avoue, votre culture G ne va pas faire un bond. Chaque jour, histoire de détendre notre invité, on lui propose un quiz contre Eva Rock sur un thème qu'il maîtrise et où Eva est totalement novice. Ouais. Par exemple, mercredi, face à Dave, c'était la Hollande.
Heureusement que c'était pas les hémorroïdes.
Mon Dieu, ça s'arrange pas. Non, ne vous défendez pas.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'émission plus excitante que le plus excitant des plans Tinder d'Eva Rock.
Je me suis endormi. Ça a duré un quart d'heure, je me suis endormi.
2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire en compagnie d'un invité d'honneur. Aujourd'hui, c'est le dramaturge et désormais écrivain Alexis Michalik qui nous accompagne. Alexis, vos pièces, Edmond, Le Cercle des Illusionnistes, Le Porteur d'Histoire et Intramuros, toutes couvertes de Molière, vont se jouer simultanément à Paris dans quelques jours. Comment, à 36 ans seulement, parce qu'on n'a pas encore parlé de votre âge, on vit un succès pareil ? Quand on sait à quel point le milieu du théâtre est difficile, enfin, c'est difficile de monter une pièce.
Oui, tous les milieux créatifs sont difficiles. Mais on le vit bien, heureusement. Sinon, ce serait dommage. Non, plutôt sereinement, à vrai dire. Moi, je suis très content. Mais parce que aussi, je me serais contenté de beaucoup moins, en fait. Donc, non, c'est vrai. Je suis ravi. Les Molières, tout ça, c'est super. Mais
c'est
moi,
du bonus pour vous.
Bah, déjà, de vivre de son métier, quand on est comédien, quand on est auteur, quand on est metteur en scène, c'est déjà une victoire. Quoi.
Vous êtes aussi metteur en scène. Là, vous gardez un œil sur les pièces en cours. Vous déboulez dans la salle un peu chaque soir pour vérifier que tout va bien.
Alors, non, pas un peu chaque soir, mais de temps en temps. Mais surtout quand il y a des nouveaux comédiens formés, où là, effectivement, bah, je l'ai choisi. Puis je finis par les aider un peu à être dans le bon ton avant que ça démarre. Quoi.
Vous publiez également Loin chez Albin Michel, votre premier roman. Comment on pourrait pitcher ce roman, Eva ? Vous qui l'avez lu.
C'est pour moi.
C'est vous, Eva, qui vous y collez.
Je vais faire hyper simple. Ne vous voulez pas, parce que c'est vrai que 650 pages à résumer, c'est un peu compliqué. Mais il y a trois héros. Antoine, sa sœur Anna, qui est un peu déjantée. Lui, il est plutôt garçon sage, la trentaine. Voilà,
là,
il va
bon.
Se marier, etc. Il est avec son meilleur ami, Laurent. Et puis, Antoine tombe sur une carte postale qui ressort en fait du courrier et qui date de quelques années déjà et qui est signé par son père qui lui avait disparu il y a 20 ans sans laisser aucune trace, et il va partir sur les traces de ce père, et c'est un voyage, une quête d'identité, une quête identitaire, oui, et donc un grand parcours à travers toute l'Europe pour savoir où est passé ce papa.
Un roman d'aventure, en somme.
Ah, c'est un grand roman d'aventure. Est-ce que je l'ai bien résumé ?
Ouais, c'est très bien. On peut même rajouter qu'ils vont se rendre compte que le père lui-même était à la recherche de ses
Exactement.
Origines. Et donc, en enquêtant sur le père, ils vont découvrir leurs propres origines.
Justement, Alexis Michalik, l'entrée en piste d'une actrice qui pourrait tout jouer. Même l'étonnement admiratif face au dernier album de Kenji Girac.
Non, c'est pas possible.
Le
non.
talent est là, Alexis
Michalik. Ça, je peux pas le faire.
Un diamant brut. Eva Rock va maintenant vous défier sur un quiz où vous avez chacun des chances égales de briller, puisque le thème est le théâtre. C'est un vrai faux.
C'est moche.
C'est vraiment
ce que
dégueulasse.
Vous, faites, quoi.
Vous répondez chacun votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. Alexis Michalik, en début d'année à Paris, le Palais des Glaces proposait à ceux qui voulaient le voir la pièce nue et approuvée d'assister à la représentation nue. Vrai ou faux ?
Ça, en début d'année, nu et approuvé.
C'était le titre de la pièce et on pouvait
assister nu à la pièce. Oh, ça me semble bizarre, enfin, j'en ai pas entendu parler en tout cas.
En tout cas, ça n'a pas été un grand succès, c'est vrai. C'était le 20 janvier, l'événement a été organisé avec le soutien de la Fédération Française de Naturisme. Il fallait venir avec sa serviette, sauf les places en catégorie or. Une serviette en microfibre était offerte. C'était la première représentation naturiste dans un grand théâtre parisien, visiblement, vous l'avez loupé.
Et ils ont même fait des grandes visites d'expo à Paris.
Mais vous aviez la réponse pour
oui,
une fois.
J'avais
c'est
la
dommage que la question
fois.
N'était pas adressée à vous.
Vous y êtes allé ou...
Non, je suis pas allée.
Avec la microfibre. Eva Roche.
Je vous en prie.
À Auckland, en Australie, Joshua Thompson se fait licencier en 2014. L'année d'après, il monte un one-man show dans un théâtre en face de l'entreprise qui va rester 4 mois à l'affiche, appelé My Boss This Bastard. Traduisez, mon patron, ce salaud. Vrai ou faux ?
Oh, j'espère que c'est vrai parce que j'adore l'histoire.
Mais vous espérez, mais vous avez faux. C'est, pas... c'est une invention de notre ami Sébastien Bordenave qui prépare ce quiz. Attention, une question, 3 propositions.
Va être au théâtre la semaine prochaine.
Et qui lui sera au théâtre en face.
Non, my boss, ce bâtard.
3 propositions. En 68, le grand Roger Hanin a écrit et monté une pièce. Quel était son titre ? 1. Les babouches de ma belle-mère. 2. Ça patauge pas mal dans la semoule. Ou 3. Ciel. Ciel, où sont passées les dates de tes oasis ?
Je vais partir sur le numéro 3.
Numéro 3 ?
Ouais, ciel, où sont
ciel,
passées,
où sont passées les dates de tes oasis ? Eva.
Et c'était quoi la première ?
Les babouches de ma belle-mère.
Ah ouais, les babouches de ma belle-mère.
Ouais. Et ben non, c'est Alexis Michalik qui remporte le point. Joué à Versailles en 68 et à Paris l'année d'après, Roger Hanin jouait le rôle principal.
Je vais
de
monter
ciel.
Cette pièce à nouveau l'année prochaine à l'Odéon.
Mais c'est une contre-pétition.
Exclu total.
Il n'y a pas une contre-pétrie dans le titre ?
Ah ben je laisse à nos auditeurs le soin de la découvrir s'il y en a une. Eva Rock, actuellement au théâtre de la Madeleine, on peut voir Ménopause. Vrai ou faux ?
Ah oui, c'est vrai, c'est une pièce qui a été écrite et mise en scène par Alex Good.
Alors d'accord, mais ne répondez pas si vite.
Ah,
préservez
pardon.
Le suspense.
Ah, bah,
le problème, c'est qu'elle joue vraiment pour gagner.
Ah, bah,
ne comprends
oui,
pas
attendez.
Les ressorts d'une émission de radio. Alexis Michalik, cette question va vous départager. En France, selon l'ANDRH, 38% des responsables en ressources humaines font du théâtre en amateur. Vrai ou faux ?
38% ? J'espère que oui.
Vous espérez que oui, mais c'est faux. Par contre, une société informatique de Lille a organisé en avril dernier des sessions de recrutement dans un vrai théâtre en faisant des petites scènes d'improvisation. On n'est pas encore à 38%. Quels sont les résultats?
Je crois que j'ai gagné pour une fois.
Vous n'avez rien gagné du tout. Égalité.
Ah bon?
Oui.
Ah mince.
Égalité. Bon. J'aime bien quand c'est égalité. Oui. Comme ça, tout le monde repart content. Bon, ouais, ces pièces n'en finissent pas de triompher, c'en est même agaçant. Quatre d'entre elles sont simultanément à l'affiche à Paris et bientôt celle de Roger Hanin qui sera reprise
absolument,
à l'Odéon.
En 2021.
Son premier roman, Loin, est disponible chez Albin Michel. Alexis Michalik passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Vous aimez la culture avec un grand C, mais aussi l'humour avec un petit H.
Vous aimez Mozart?
Oh oui. C'est lequel?
Le dernier.
Vous êtes au bon endroit. Chaque après-midi, l'équipe est sauvage vous accueille dans une ambiance chic, mais décontractée, pour étoffer votre culture générale sans pour autant risquer de vous claquer un neurone. À suivre. Et si des électrodes permettaient de décrypter l'émotion des spectateurs lors d'un spectacle? L'expérience est déjà en cours. Restez quand même avec nous, Alexis Michalik. N'écoutez pas les conseils de Sheryl Crow. Run, baby, run, sur Europe 1.
L'équipe est sauvage, sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, l'hybridation audacieuse pour les uns, monstrueuse pour les autres, de bouillon de culture et d'interville. En guise de vachette, les journalistes de la rédaction d'Europe 1 survoltés qui se mettent sur la gueule pour décrocher le prestigieux titre de chroniqueur du jour. Qui l'emportera aujourd'hui? La compétition continue juste après notre décrochage régional. Cette séquence bon plan, sortie ou curiosité près de chez vous. Voici Régional Géographique. Bonjour Arthur Anne-Bachet.
Bonjour Mathieu.
Quand la musique fait avancer la science, l'avenir de jeunes chefs d'orchestre se joue ces jours-ci à Besançon. Il y a un concours de réputation internationale et l'avenir de la médecine aussi. Des chercheurs de l'Université de Franche-Comté profitent de la profusion de concerts symphoniques pour mener des expériences sur les émotions avec des applications envisageables sur des patients dans la vraie vie. Mais Arthur, comment c'est possible ça?
Alors apparemment c'est une question d'orgasme et, j'ajouterai pour être fidèle au docteur Pazard qui coordonne toute cette expérience, une question d'orgasme collectif.
Encore
tout
mieux.
Le monde agit de la même manière, ils ont vraiment l'impression de vivre un orgasme collectif et donc c'est ce qu'on appelle l'orgasme cutané, c'est le frisson et c'est ce que l'on recherche aujourd'hui.
On part pour l'orgasme?
Allez, on part pour l'orgasme, comme vous voulez.
Excusez-moi, Colette, est-ce que vous savez que le médecin-chef a l'intention de nous faire vivre un orgasme collectif?
Oh ben moi, tout me tente. Moi, j'aime les expériences, j'aime tout découvrir. Pourquoi pas, quoi?
Alors, Arthur, qu'avez-vous fait en vrai dans cette salle de concert de Besançon?
Avec Colette.
Alors, c'est très sérieux avec Colette. Théâtre à l'italienne, imaginez, premier balcon, l'orchestre qui est prêt, tout est normal, sauf une rangée de spectateurs, ils ont des fils branchés un peu partout.
On est un peu comme des cosmonautes juste avant le décollage.
Alors, j'ai un casque avec des électrodes.
Interdit de bouger, on ne doit pas non plus aller faire pipi.
Deux électrodes pour mesurer un peu les émotions au niveau de la peau, si j'ai bien compris. Et un autre électrode pour mesurer les émotions au niveau du cœur, la fréquence cardiaque. Ça va être intense.
Et les scientifiques, Arthur, ils font quoi ensuite de ces résultats?
Alors, ils vont identifier ce qui se passe dans notre corps au moment où on ressent une émotion, une vraie émotion qui donne des frissons, qui transporte. Et parmi les pistes d'application médicale, et là vous allez voir, c'est très sérieux, plus de blagues, les médecins m'ont parlé de Vincent Lambert, vous savez, celui qui est mort l'été dernier après des années en état végétatif. Eh bien, peut-être que d'ici quelques années, grâce à cette expérience de Besançon, on pourra faire ce qu'on n'a pas réussi avec lui, affirmer qu'une larme, par exemple, sur le visage d'une personne qui est dans le coma, eh bien, c'est une réaction réflexe, purement physique, sans sentiment derrière, ou, à l'inverse, bel et bien la conséquence d'une émotion ressentie par le patient.
Passionnant, vraiment passionnant.
Ah oui, c'est génial. Hein.
Arthur Anne-Bachet, je vous dis bravo, vous êtes notre correspondant Europe 1 dans l'Est. Et on continue de voyager, Eva, même ne fût-ce que par l'imaginaire, avec Loin, le nouveau roman de notre invité, le prolifique Alexis Michalik, qui nous accompagne tout l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipée sauvage, deux heures intenses, voire éprouvantes sur le plan émotionnel. Chaque après-midi dans la rédac d'Europe 1, c'est Guernica, la guerre de tous contre tous pour le titre de chroniqueur du jour. Quel sujet vous aura le plus passionné aujourd'hui? Quel journaliste sortira du lot? Deux nouveaux compétiteurs s'apprêtent à nous rejoindre, on parlera science et films érotiques. Eva, je sens que pas un jour ne passe sans que vous ne vous disiez, vous avez bien fait de me suivre dans cette aventure.
Moi, j'aurais pas dû le faire, j'aurais dû passer mon chemin.
Merci Eva, on est toujours plus fort à deux.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage, l'émission qui, je crois, a su trouver la bonne distance entre information, humour et élégance. Un équilibre subtil qui doit beaucoup au talent de ma complice Eva Rock, femme de lettres, s'il en est. Je crois d'ailleurs, Eva, que le moment est venu de citer Nietzsche.
Qui pisse au vent, se rince les dents.
Non, non, je pensais pas à celle-là. Non, je pensais plutôt non, à celle qui dit « Il n'est de savoir durable que le gai savoir ». Ça cadrait mieux avec le concept que votre citation à vous. Bref, quelle joie de vous accueillir pour une heure encore de découverte et de bonne humeur en compagnie d'un invité qui incarne les deux. Ces pièces sont un tel carton que quatre d'entre elles vont bientôt se jouer simultanément dans quatre théâtres à Paris. Il vient nous présenter son premier roman, Alexis Michalik, on citait Nietzsche. Vous, votre mentor, c'est plutôt Socrate. Sur le succès, vous dites « L'ambition n'est pas mon moteur, au contraire, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Vous pourriez au moins avoir la politesse d'être un peu plus mégalo quand même.
Oui, 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 c'est vrai. Mais bon, non, mais je laisse ça à d'autres qui font ça très bien.
Oh, des noms. On continue de parler de votre incroyable carrière, mais d'abord, je vous présente notre deuxième duel du jour. À ma gauche, de retour d'une longue absence, officiellement pour des raisons professionnelles, officieusement...
Une jeune Polonaise qui n'a même pas 20 ans.
Oui, on l'embrasse, on embrasse Katiushka. Monsieur Charrier, vous avez deux passions, le cinéma et la luxure. Vous combinez les deux aujourd'hui.
Oui, je vais vous parler... De l'époque où Francis Ford Coppola, figurez-vous, tournait des films érotiques.
Mais c'est incroyable ça, j'avais jamais entendu parler de ça.
Ben voilà, vous allez voir.
À vos côtés, enfin un professionnel sérieux dans cette compétition, un journaliste scientifique de renom qui dirige la revue Ciel et Espace et qui n'a au fond qu'un vice, qu'un péché mignon.
Faire des contrepétries avec douille.
Alain Siroux est avec nous, bonjour Alain.
Bonjour Mathieu.
De l'infiniment petit à l'infiniment grand, voilà le programme de votre chronique aujourd'hui.
Oui, parce que je sais notre invité familier de Cyrano, de Méliès, de Kubrick, donc des mondes rêvés avec des étoiles, des lunes, mais il y a aussi des mondes calculés avec les mêmes objets.
Quelle chronique notre invité Alexis Michalik préférera-t-il ? Les grains de sable, les étoiles ou les films érotiques de Coppola ? Réponse juste avant 18h. Alexis, vous nous présentez aujourd'hui votre premier roman, Loin, chez Albin Michel. Eva Rock, vous l'avez lu pour nous. Je veux maintenant non pas le pitch, mais la critique du livre.
Mais je vous l'ai dit.
Vous êtes un brouillon de culture et vous nous dites ce que vous en avez pensé.
Aïe.
J'ai beaucoup aimé, sincèrement, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai aimé prendre le temps de le lire en fait, parce qu'on dit 650 pages.
C'est important
pages.
Pour un livre, ça, c'est vrai que c'est le premier conseil qu'on peut donner aux auditeurs.
Est-ce que vous avez réussi à aller jusqu'au bout déjà.
Je suis allée jusqu'au bout évidemment et j'étais très heureuse de voir l'arbre généalogique à la dernière page parce que ça m'a remémoré en fait tout le roman, sincèrement. Donc j'ai aimé ça. Quand je dis je prends le temps de le lire, c'est-à-dire que vous pouvez le refermer et le reprendre. Vous avez un tel attachement aux trois héros principaux qu'en fait vous n'êtes jamais perdu.
Ah, moi pour être honnête, je n'ai que commencé à le lire parce que malheureusement j'ai écrit cette édition qui prend un peu de temps.
Je vous le conseille.
Mais c'est un page turner, c'est-à-dire que le roman,
les trois premières pages sont super.
Les trois premières pages sont monstrueuses. Non, j'en suis plus loin, mais ça se lit vraiment extrêmement facilement.
Vous plaisantez avec vos histoires de trois premières pages, mais rien que le premier chapitre, il faut lire ce premier chapitre qui est un condensé d'humour et de réflexion philosophique sur le voyage, pourquoi on voyage, qu'est-ce qui nous pousse à partir, est-ce que le voyage intérieur c'est pas plus mal, pas plus facile et pas plus mal que partir à des milliers de kilomètres. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai gardé mon âme d'enfance pendant 650 pages et rien que pour ça, je vous en remercie.
Un roman, c'est le premier. En revanche, au théâtre, Alexis Michalik, vous êtes l'enfant prodige. À seulement 36 ans, vos pièces sont des succès immenses. On est allé le vérifier dans la rue. C'est pourtant rare, un auteur de théâtre contemporain connu. Hein. Il n'y en a pas 36, en fait, il y a vous.
Alexis Michalik.
Ce qu'il a de particulier, c'est qu'il écrit des pièces, je trouve, qui sont originales et qui sortent des rails.
Il est né en 1982. Wikipédia.
C'est quelqu'un qui vous emmène au théâtre dans un monde magique. C'est vraiment l'espèce de petit génie, c'est ça, de magicien de la scène.
C'est un cuisinier, un pâtissier. Et c'est aussi un joueur de rugby. Il y en a deux.
Dans une petite scène quasiment sans décor de 3 mètres carrés, il vous fait vivre trois endroits.
Alexis Michel.
Et en fait, il nous emmène dans des espèces de lieux qu'on imagine alors qu'il y a juste un tapis par terre et trois comédiens.
Alexis Michalik.
Ah voilà, le cercle des illusionnistes que j'ai vu dernièrement. Et Edmond que j'ai vu aussi. Donc je suis une fidèle.
C'est super rare que le nom d'un auteur de théâtre
mais
soit...
C'est vrai ça, ouais. C'est des vrais micros.
C'est des vrais gens. Alors incroyable. Dans la rue, on vous arrête peut-être pas parce que physiquement, les gens peut-être ne vous en pas. Mais par contre, les gens connaissent votre nom. Le nom Michalik, ça résonne vraiment.
Alors c'est vrai qu'on a fait le micro-trottoir à Paris, donc peut-être c'est plus facile parce que vos quatre pièces se jouent effectivement dans les théâtres parisiens.
En face d'une des pâtisseries de Christophe Michalik.
Est-ce que c'est des pièces qui peuvent partir en tournée ? Je pense à Edmond, où il y a beaucoup de comédiens.
Moi j'étais très surpris en faisant la tournée du film Edmond, en faisant une tournée d'avant-première, de voir qu'il y avait beaucoup de gens dans la salle qui connaissaient les pièces aussi, parce que les pièces tournent beaucoup en France en fait. Donc il y a plein de villes où les gens ont vu plusieurs des spectacles et les suivent avec attention. Je trouve ça incroyable quoi.
Vous avez un côté assez cash sur la dimension économique du théâtre. Beaucoup d'artistes se drapent dans leur pudeur de créateur. Vous dites clairement que vous ne ferez jamais un spectacle à perte pour le simple amour du théâtre. Il faut que ce soit rentable, c'est essentiel pour vous.
En tout cas j'essaye. Quand je crée un spectacle, j'ai la peur que les producteurs perdent de l'argent avec le spectacle. Pour moi, à partir du moment où on a réussi à se rembourser, c'est que c'est gagné. Mais c'est l'école avignonnaise genèse du off. Hein. Il y a un côté où on arrive au festival off en sachant qu'on est un peu, qu'on a perdu de l'argent, et le but c'est d'essayer de revenir à zéro pour pouvoir refaire un spectacle derrière. C'est aussi simple que ça. Et c'est un théâtre sans subvention du coup.
C'est ce côté du créateur qui met les mains dans le cambouis au départ qui fait que vous avez ce succès aujourd'hui. Vous connaissez tous les métiers du théâtre, en fait.
Oui, de l'artisan créateur, quoi. C'est ça, mais en fait, je me vois plus comme un entrepreneur que comme un artiste, parce que c'est vrai que ces casquettes, je les cumule avec plaisir, et que tout ce que j'ai appris dans le off, eh ben, c'est de maîtriser la chaîne du début à la fin, de l'idée initiale jusqu'à la com, parce que ben, Avignon Off, c'est un concentré de com, c'est, on apprend à tracter les gens, on apprend à remplir notre salle, et du coup, oui, j'aime bien cet univers-là parce que ça montre que c'est possible de cumuler une exigence artistique et puis en même temps quelque chose qui n'est pas un irréalisme économique non plus.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a 5 ans vous avez fait un burn-out ?
Oui, absolument. C'était juste après les premiers Molières que j'ai eus et j'étais à moitié en tournage, à moitié au Festival d'Avignon, etc. Et puis ouais, d'un coup je me suis réveillé, j'étais crevé, je ne pouvais plus rien avaler et ça a duré comme ça pendant quelques mois et c'était bien parce qu'en fait ça m'a appris à prendre des vacances et c'est mon corps qui me parler quoi. Et du coup, je me retrouve beaucoup aujourd'hui à croiser des gens qui sont dans ce genre de situation et qui savent pas trop mettre les mots dessus.
Vous
et
leur
dire,
dites,
bah, écoute, je crois que ton corps essaie de te dire quelque chose. Là.
Vous avez aimé ces pièces, il y a de très fortes chances que vous aimiez son premier roman, Loin, chez Albin Michel. Alexis Michalik est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Eva Rock, Alain Siroux et Mathieu Charrier sont à mes côtés, prêts à en découdre. Puisque vous le savez, L'équipe est sauvage n'est pas qu'une innocente émission de divertissement au service de votre culture G, c'est également une compétition entre les meilleurs journalistes de la rédaction. Chaque jour, ils se surpassent pour vous offrir l'info, le scoop que vous aurez hâte de raconter au dîner. Mathieu Charrier, un premier scoop.
Tu sais, je viens à vélo maintenant. Je vous le dis, je rebâtis d'algo.
Ah ouais. Bon, là, vous avez la coupure pub pour trouver le mur en matière de scoop.
16h, 18h sur Europe 1, L'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue 2 heures d'une bataille sanglante entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. George Martins, le créateur de Game of Thrones, aurait d'ailleurs déclaré « Je ne peux pas écouter cette émission, c'est trop violent pour moi, it's too violent !» Car oui, chaque après-midi désormais, il s'agit d'élire le chroniqueur du jour, celui ou celle dont le sujet vous aura le plus captivé. Attention tout de même, je rappelle à certains journalistes en compétition le principe de la notation. Le vote de notre invité d'honneur, aujourd'hui Alexis Michalik, compte triple. Le vote du public compte double. Mon vote à moi ne compte que pour un, certes, mais il compte quand même, Mathieu Charrier. Donc si vous continuez à vous foutre de ma gueule, c'est le guichet du Pôle emploi spectacle qui vous attend en fin de saison. 4 journalistes qui se sont surpassés pour vous offrir la...
Non, surpassés.
Ta gueule. Mais je sens que cette émission déjà sanglante pourrait l'être encore plus en saison 2 au Prud'homme.
Mais c'est pour vous que je fais ça.
Je sais, pour m'améliorer.
Voilà.
Mathieu Charrier, puisque vous êtes là, de quoi vous nous parlez aujourd'hui ?
Je vais vous parler du premier film et d'un aspect assez méconnu du film érotique de Francis Ford Coppola. Vous savez, cet homme aux 2 palmes d'or, Apocalypse Now, Conversation secrète, l'homme qui nous a offert Le Parrain, l'homme qui va recevoir d'ailleurs le prix Lumière à Lyon lors de la prochaine édition du 12 au 20 octobre, le grand Francis Ford Coppola.
Et qui fait aussi un vin pas dégueu.
Ah,
je tiens à préciser, Alain Siroux me fait pouce en l'air, avec modération évidemment, chers amis, mais une belle petite cuvée.
Et donc avant de faire tout ça, figurez-vous qu'il a tourné des films érotiques. On repart un petit peu en arrière, on est en 1961, Coppola est étudiant en cinéma à l'université de UCLA à Los Angeles, et comme beaucoup d'étudiants en cinéma, il n'a pas un sou en poche. Un jour, il entend parler d'une nouvelle mode qui commence à se répandre, celle des nudies, des films érotiques, où il n'y a pas de scène de sexe à proprement parler, mais des filles qui ont une légère tendance à se dévêtir. Il se dit, tiens, et pourquoi pas moi finalement ?
Et il tourne son premier film érotique.
Exactement, qui s'appelle The Peeper. C'est un court-métrage qui raconte, écoutez bien, l'histoire d'un mec qui espionne un photographe.
Il faut préciser que to peep en anglais, ça veut dire espionner.
Voilà,
plutôt
exactement.
Que, hein, n'est-ce pas, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible.
Qui espionne donc un photographe de nu pour surtout apercevoir ses modèles. Alors évidemment, quand les camarades de classe de Coppola apprennent tout ça, il est moqué partout, sauf un, Jack Hill, qui lui présente alors un producteur de films porno. Et ce dernier lui propose un deal. Il va réaliser son premier long métrage dans lequel il a le droit d'intégrer son court métrage. Le projet déjà prêt, c'est déjà écrit. C'est l'histoire d'un cow-boy qui, suite à un choc, voit des femmes nues partout. C'est très recherché comme histoire.
C'est pas mal.
Coppola accepte. Et le pire, c'est qu'il va même demander à son père d'en composer la bande originale. À l'époque, Carmine Coppola, il était chef d'orchestre à Baudruy. Et comme on peut rien refuser à ses enfants, qu'est-ce qu'il fait ? Il accepte. Beau travail familial.
Mais Coppola, il n'a pas tout fait ensuite pour faire oublier ce
non,
film ?
Non, non, pas du tout. Au contraire, il est même crédité comme étant le premier film de Francis Ford Coppola en tant que réalisateur. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia.
C'est
d'ailleurs, ouais, c'est noté. Le film s'appelle Tonight for Sure, traduit en français par L'Ouest sauvage et nu. C'est joli aussi comme titre. Et le pire ou le mieux d'ailleurs, c'est que le résultat était concluant. un autre réalisateur lui confie un nouveau projet porno dans lequel il va mettre un petit peu de 3D. C'était quand même déjà Coppola à l'époque. Et un soir, dans la salle, en train d'assister à cette projection, un certain Roger Corman, qui produira le premier film sérieux du réalisateur Demencia 13, qui va lancer sa carrière. Donc Francis Ford Coppola peut dire merci au film porno. Et je vous conseille au passage un excellent article qui raconte tout ça avec encore plus de détails dans le dernier numéro de ce film.
Ah, et voilà. Ben c'est important de signaler et de citer effectivement nos confrères. Alain Sirou, je crois que vous avez... une petite question vache.
Oui. Oui, Mathieu a parlé d'Apocalypse Now, évidemment, ah bah qu'on revoit aujourd'hui d'ailleurs dans une version réalisateur. Savez-vous, Mathieu, quel a été le premier réalisateur qui a été imaginé pour Apocalypse Now et qui lui a préféré d'ailleurs le ciel pour le compte?
Qui lui préfère le ciel?
Il est mort, c'est ça?
Non.
Non, c'est une.
Non, c'est George Lucas. C'est...
Oui,
qui devait faire Apocalypse Now, absolument, et qui a préféré la guerre des étoiles.
Vous êtes sûr de ce que vous avancez?
Oui, et ça leur a valu une fâcherie tous les deux, Coppola et Lucas, pendant quelques années. Ils se sont réconciliés aujourd'hui.
Alexis Michalik, les grands cinéastes comme Coppola.
J'ai eu peur. Non, pardon, je croyais que vous
aviez Alexis Michalik, vous avez refusé le tournage d'Apocalypse Now, mais vous avez bien surbondi.
Effectivement proposé.
Non, je voulais vous demander si le cinéma était une source d'inspiration ou si l'écriture pour le théâtre est vraiment tellement différente qu'on ne peut pas s'inspirer d'un univers cinématographique.
Moi, bien sûr que c'est une source d'inspiration. Surtout les réalisateurs scénaristes à la Christopher Nolan, Iñárritu, qui tordent un peu l'espace-temps, la narration. C'est pour moi Memento, que c'est un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, où l'intrigue est montée à l'envers. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est génial de faire ça, ou 21 grammes, enfin tous ces films où la narration n'est pas linéaire, c'est clairement ce qui m'a inspiré les spectacles, pour ceux qui ne les ont pas vus, où effectivement la narration part un peu dans tous les sens et finit par faire sens à la fin.
Il vous reste à découvrir le film érotique de Francis Ford Coppola. Merci Mathieu Charrier. Les deux, votre chronique pas du tout racoleuse vous permettra-t-elle de l'emporter aujourd'hui? On écoute quand même celle d'Alain Sirou.
Voilà, aucun intérêt.
Non, essayez de rester sport Mathieu, essayez quand même.
Europe 1.
Nous ne sommes que mercredi et pourtant, comme cette feignasse de Charrier, vous vous dites déjà...
C'est bientôt le week-end.
Ça, c'est chouette.
Oui, la reprise a été rude. Heureusement, chaque après-midi, pour vous détendre et vous cultiver, il y a l'équipée sauvage. 2 heures de découverte, de galéjade. 2 heures aussi pour apprendre à mieux connaître un invité et réciproquement, à un invité à mieux nous connaître. Comme Anne-Claire Coudray, présentatrice du JT de TF1 hier.
Je trouve que Eva Rock parle beaucoup de sexe. Ça vous travaille ou...
Eh oui, ça permet aussi aux invités de découvrir Eva Rock. Dans un instant, justement, Eva s'envoie en l'air avec Alain Sirou qui nous expliquera comment les scientifiques peuvent calculer le nombre d'étoiles dans l'univers. Juste après, The Fame, Summer is a Curse sur Europe 1.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue, les bookmakers s'agitent. Sur qui parierez-vous? Charrier, érotique Coppola, Kazakh bleu, ou Cosmic Sirou, Kazakh bleu aussi? Oui, chaque après-midi sur Europe 1, vous ne vous contentez pas d'écouter les journalistes, vous les notez. Le meilleur sera élu chroniqueur du jour, sous l'œil de ma complice Eva Rock, dont vous êtes nombreux à vous demander comment elle fait pour me supporter. Eh bien, je dirais une très très grande tolérance à mon côté dictatorial.
D'accord, oui chef. Tu veux un café? Un amour.
Eva, merci d'être si gentille. Nous ne sommes pas seuls. Avec nous, un invité exceptionnel aujourd'hui publie son premier roman, Loin, chez Albin Michel. Mais côté théâtre, il n'en est pas à son coup d'essai. C'est le prodige du théâtre français qui nous accompagne aujourd'hui. Le porteur d'histoire, Intramuros, le cercle des illusionnistes, Edmond, Alexis Michalik. On a déjà évoqué votre recul par rapport au succès, votre modestie. Mais quand même, il y a bien un moment où chez vous, vous prenez un de vos Molières, là, je ne sais pas combien vous en avez, vous dansez devant la glace en chantant...
En plus, c'est une chanson que j'adore.
C'est vrai?
Ouais, bien sûr, je danse là-dessus, ouais. Complètement. Don't Stop et Ilya Denov.
Moi aussi, je danse, mais il me manque que Molière.
Bien sûr. On est de la même génération, c'est pour ça.
Mais c'est pour ça. Quand on vous lit, notamment ce nouveau roman Loin, quand on voit vos pièces, notamment Le Porteur d'Histoire, on se dit que vous deviez être sacrément doué à l'école. Vous étiez un bon élève.
Ouais, j'étais un bon élève en plus. Je faisais des maths. J'avais
bon
l'intention de faire des maths.
J'ai
eu des très bonnes notes au bac en maths et j'ai fait une fac de maths pendant 6 mois. Maths, info et applications aux sciences. Et puis un jour, j'ai décroché un premier tournage et j'ai eu, je crois que j'étais payé 10 000 francs pour 5 jours de tournage. Pour nos jeunes auditeurs, ça fait 1 500 euros. Et s'il y en a. Et j'ai dit à. J'ai dit à ma mère, voilà, je suis payé tant. Elle m'a dit, c'est bon, tu peux arrêter la fac.
Ah, ils étaient sympas, vos parents.
Ouais, ils étaient très cool. À ce niveau-là, vraiment, ils voulaient que leurs enfants fassent ce qui les épanouissait. Ils nous ont dit, on te filera pas un euro, hein, tu te débrouilles. mais par contre, tu fais ce que tu veux.
Pour ceux qui se diraient, oula, moi le théâtre, on peut les rassurer en leur disant que l'univers Michelix, c'est un univers très accessible, fait d'aventures, de rebondissements. Votre roman de référence, je crois que c'est Le Comte de Monte Cristo. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on vous diriez à ces gens qui n'ont jamais peut-être mis les pieds dans un théâtre, qui ont peur tout simplement de
Ah bah,
de
je, en fait, c'est pas ce que je leur dis, c'est les spectacles que je fais. C'est-à-dire que concrètement, j'essaye de faire des spectacles qui sont les plus fédérateurs ou les plus populaires, tout en restant exigeant, mais les plus populaires possibles. Moi, mon but quand je crée un spectacle, c'est qu'il puisse être apprécié par quelqu'un qui est très érudit et qui a vu 10 000 spectacles et quelqu'un qui met les pieds dans une salle de théâtre pour la première fois. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir que des jeunes, parce qu'en général, c'est des classes ou des jeunes qui sont jamais venus au théâtre et qui sortent en disant bah, j'ai envie d'y retourner, ou j'ai envie d'ouvrir un bouquin, ou j'ai envie d'en savoir un peu plus sur l'auteur, etc. Ça, c'est le meilleur des compliments.
Est-ce que vous êtes inquiet pour le théâtre en tant que tel? Quand Edmond Rostand voit arriver le cinéma à la fin du 19e siècle, il se dit oh là là, c'est la fin des haricots. Bon, finalement, ouais. Le cinéma n'a pas tué le théâtre, la télé non plus. Donc Netflix ne tuera pas non plus le théâtre.
Moi, je pense honnêtement que le théâtre ne sera jamais tué, en fait, parce que c'est l'humain, c'est ce qu'il y a de, entre guillemets, moins cher à produire. Hein, par rapport à un film, il n'y a pas photo. Hein, on prend trois copains et on loue une salle et on joue. Ben, c'est évidemment moins cher que de faire un long métrage. Donc, je ne pense pas que le théâtre va mourir, quoi qu'il arrive. Mais il y a des pays, des sociétés qui le soutiennent plus ou moins. Et on a la chance en France d'avoir un système culturel qui soutient beaucoup le théâtre. Donc non, je n'ai pas trop peur pour lui.
Netflix ne va pas tuer le théâtre, certainement pas. En revanche, on passe beaucoup, beaucoup de temps devant les plateformes de VOD. Selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd même 17 minutes par soir, rien qu'à choisir la série qu'on va regarder. Heureusement, pour y voir plus clair, il y a désormais notre rubrique. 17 minutes de gagner. Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ou sur les écrans ce soir?
Alors d'abord, une première question pour vous, Alexis Michalik. Est-ce que vous savez pourquoi il faut absolument regarder en priorité OCS ce soir à 20h40?
Ah, qu'est-ce qui se passe sur OCS alors?
Vous savez
ça
pas
sent la question.
Bah, c'est, je croyais qu'il y avait que Game of Thrones sur OCS. Non, il y a d'autres séries.
Il y a un film qui s'appelle Edmond et qui est adapté de votre pièce.
Oh non.
Et c'est ce soir, et je vous jure, c'est vrai.
Et c'est vrai, je l'ai vu en plus passer. Ouais.
C'est super, donc vous voilà. Saviez, voyez, si on a, si il on fallait a, que vous veniez aujourd'hui.
Je fais un appel à tous les spectateurs qui ont pris OCS en abonnement pour regarder la dernière saison de Game of Thrones et qui n'ont pas pensé à résilier leur abonnement encore. Regardez Edmond ce soir, s'il vous plaît.
Exactement. Et alors, pour plus tard, pour demain ou pour ce week-end, je vous conseille un autre programme. C'est un documentaire qui pourrait être la bande originale de votre livre, Loin. Ça s'appelle Les Étoiles Vagabondes et c'est le titre de ce film signé du rappeur Nekfeu, titre aussi de son dernier album, un film qui débute en Grèce sur une petite île.
Ici, sur l'île de Mytilini, je suis loin de la pression. Je vois ma famille et je prends mon temps. Pourtant, moi, le Parigo, j'y ai jamais vécu. Mais mon père l'appelle le pays mythique, celui qui colle aux souliers, où que tu sois en exil. Et moi, c'est en exil que je parle le mieux de ma vie à Paris, à l'ombre de l'éloignement.
Alors Nekfeu, il est dans une forme d'urgence, celle de réaliser et de réussir son troisième opus, mais le garçon, il sent mal, il est étranger à sa vie, comme il dit, et puis surtout, il est en manque d'inspiration.
Le plus difficile dans la création d'une nouvelle œuvre, c'est le premier trait. Celui qui vient troubler l'équilibre de la page blanche. Celui qui, en choisissant d'être, assassine une infinité d'autres réalités.
Alors j'ai pensé à vous en regardant ce documentaire, parce que la seule solution à ce manque d'inspiration, bah, c'est le voyage, alors un voyage intérieur, mais un voyage aussi vers d'autres horizons, comme ceux qu'il va réaliser avec l'équipe qui l'accompagne depuis des années, direction le Japon, Los Angeles, la Nouvelle-Orléans. Nekfeu va entamer une traversée géographique comme vos héros, Alexis Michalik, et l'artiste se transforme au gré des kilomètres et finit par revenir en Grèce pour les dernières notes de cet album. C'est une ultime destination extrêmement émouvante d'ailleurs. Tout est porté par les mots et la musique de Nekfeu, par ses doutes, ses enthousiasmes, par ses rencontres, ses découvertes d'un ailleurs. Il reconnaît à la fin du film, c'est en moi que j'ai le plus voyagé. Vraiment, ça collait à tous vos mots. Sa réussite, c'est de nous faire voyager aussi. Et un film à la fois poétique et musical qui suscite la réflexion. J'ai un vrai coup de cœur pour Les Étoiles Vagabondes et c'est à découvrir sur Netflix.
Bah, le problème, c'est qu'il y a Edmond sur OCS. Donc là, on a un cas de conscience.
Mais vous le gardez, puisque
oui,
c'est sur
vrai.
Netflix.
On regarde
pour le regarder.
C'est vrai.
Voilà, vous le regardez
enfin,
ce week-end.
Bah, voilà.
Bien sûr.
Et voilà. Écoutez l'album de Nekfeu, un petit bijou.
17 minutes de gagner. Merci, Eva Rock.
Europe 1.
À suivre dans l'équipe et sauvage, notre expert scientifique nous entraînera
vers l'infini et au-delà.
Calmez-vous Alain, comment peut-on calculer le nombre d'étoiles et de galaxies dans l'univers? Alain Sirou nous explique les secrets des calculs de la NASA où des astrophysiciens peuvent passer des nuits perdues dans des équations.
Oh, mille pensées pour eux.
A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue 2 heures de rire et de découvertes pour vous, d'affrontements fratricides pour eux. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes de la rédaction croisent le fer au service de votre culture G. Tous les coups sont permis dans une ambiance de plus en plus délétère qui contamine peu à peu jusqu'à nos invités, jadis neutres dans la bataille et qui désormais se permettent de casser, eux aussi, comme Anne-Claire Coudray hier, au détour d'une remarque pourtant pertinente des Varocs.
avant eux, il y a eu les Everly Brothers.
Vous savez quoi, ce qui est marrant, c'est que c'est le groupe préférence de Dave qu'on a reçu hier.
C'est super marrant, dis donc. Voilà.
Aujourd'hui, c'est le dramaturge Alexis Michalik qui nous accompagne pour la sortie de son premier roman Loin chez Albin Michel. Ah là, Eva Rock vient de frapper Mathieu Charrier qui riait un peu trop au son que nous venons d'entendre. Se risquer au roman quand on est au top dans le théâtre, ça me fait penser à une phrase de votre livre, je cite « Comment avoir l'audace de prétendre être en vie si l'on vit sans oser ?»
C'est une très belle phrase de la quatrième de couverture en tout cas. Merci.
C'est vrai,
de la...
j'ai lu la quatrième de couverture, vous m'avez percé à jour. Il est fort ce Michalik, on peut pas le bluffer. Mais j'ai vu toutes vos pièces, donc
ouais,
ça compense.
Ouais, c'est gentil. Non, bah oui, effectivement, c'est un peu la conclusion du bouquin, à vrai dire, puisque c'est l'histoire de trois jeunes qui n'osent pas sortir de leur zone de confort, surtout le héros Antoine, qui a une peur panique de l'avion et du coup, il a jamais vraiment voyagé très loin. Et au fur et à mesure du roman, alors qu'il est à la recherche de ce père donc, à qui il en veut beaucoup d'être parti, il va se rendre compte en fait de tout le chemin qu'a parcouru le père. Il va devenir de plus en plus comme son père et prendre le goût du voyage et prendre le goût de l'aventure. Et moi, je l'ai ce goût de l'aventure puisque justement, c'était pour ça que j'écris un roman alors que j'aurais pu juste continuer à faire.
Voilà, dérouler des pièces. Vous ne restez jamais dans votre zone de confort, ça vous intéresse?
En tout cas, non, mais si, bien sûr. Il m'arrive d'être très pantouflard, mais j'aime aller vers le nouveau, j'aime les bons jours, quoi. J'aime pas trop les au revoir, quoi.
Lui, il ose tout, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Voici notre dernier concurrent du jour, Alain Siron. Directeur de la revue Ciel et Espace, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. En le recrutant, je m'étais d'ailleurs dit, Alain est si gentil, n'est-il pas un peu trop tendre pour la compétition où il faut savoir parfois tacler ses adversaires? Vu sa réflexion perfide de lundi quand Nicolas Carreau a déclaré
« Oui, je sais, je suis qu'une merde. »
C'est pas faux. Hein.
J'ai compris qu'il était en fait un redoutable compétiteur. Alain, avec quel sujet allez-vous rafler la mise aujourd'hui?
Je vais faire appel à l'imaginaire parce que, évidemment, on parle imagination, poétique et on dit souvent, c'est d'ailleurs très courant, qu'il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable à la surface de la Terre.
Vous savez, c'est vrai chose.
C'est une vraie question scientifique et c'est une question scientifique à laquelle on répond chaque jour davantage. Et je vais vous dire pourquoi.
Chaque jour davantage, ça veut dire qu'on n'y répond pas vraiment.
C'est de la science, c'est-à-dire que vous poussez une porte puis il y en a 10 autres derrière.
Ouais.
Donc en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'univers? Vous regardez le ciel le soir, vous avez sous vos yeux, quand le ciel est vraiment très beau, 2500, 3000 étoiles. Et puis avec une paire de jumelles, il y en a 10 fois plus avec des télescopes. Alors c'est une infinité. Mais l'infinité, qu'est-ce que ça veut dire? Les astronomes ont commencé à compter le nombre d'étoiles sur les plaques photo.
Oui, mais ça, du coup, ça n'a pas de valeur.
Alors si, ça a une valeur, parce que c'est exactement comme quand vous allez chez le médecin qui veut savoir si vous avez plus de globules rouges, il vous fait un petit prélèvement, puis il regarde, il compte le nombre de globules rouges, puis il estime votre état de santé.
D'accord.
Donc on a fait ça dans notre galaxie qui est, je dirais, le paquet d'étoiles, la cité d'étoiles dans laquelle on est. Et on a trouvé un chiffre très précis, 300 milliards d'étoiles environ. Le viron étant toujours une bonne unité de mesure, comme vous le savez, en astronomie. Et puis on s'est dit, 300 milliards d'étoiles, c'est quand même pas mal. Mais combien il y a de galaxies? Combien il y a de cités célestes? Et
donc, il faut rappeler, c'est quoi une galaxie déjà?
Une galaxie, alors j'ai une très jolie définition qui était donnée par Hubert Reeves qui disait, les galaxies sont aux étoiles ce que les ruches sont aux abeilles.
D'accord.
C'est-à-dire, en fait, ce sont des systèmes de centaines de milliards d'étoiles qui forment des cités stellaires.
Qui fonctionnent ensemble.
Mais combien il y en a? Alors, on a utilisé le Hubble Space Telescope, entre autres, et on a fait la même numération en comptant le nombre de galaxies dans l'univers.
Combien de galaxies?
Alors, on ne le sait pas parce qu'on ne sait pas quelle est la taille de l'univers, parce qu'il est peut-être infini, on ne le sait pas, mais on a compté le nombre de galaxies observables. Et là, on en a trouvé aussi entre 250 et 300 milliards. C'est beaucoup, hein?
C'est pas mal.
C'est pas mal. Donc, on a multiplié le nombre de galaxies par le nombre d'étoiles, ça fait un grand chiffre, ça fait 10 puissance 23. Mais le plus compliqué, c'était de compter le nombre de grains de sable à la surface de la Terre.
Ça, c'est
pas si
plus
évident
dur.
Que ça.
Ben oui.
Bon, donc, on a regardé le petit grain de silice, on a regardé la superficie de la Terre, le nombre de plages, les bords de fleuves, etc. Et puis on a vu que ça faisait à peu près un mètre cube de sable, ça fait 100 milliards de grains. On a estimé ça et on arrive à un chiffre qui est de l'ordre de 10 puissance 23 grains de sable. Et on se dit, c'est incroyable, c'est presque équivalent. Sauf que...
Il est tout excité, les tambours de l'organe, Malin Siro.
Depuis 1995, on sait qu'autour de chaque étoile, il y a sans doute des systèmes planétaires. Et si on prend le Soleil, il y a par exemple 8 planètes autour de notre Soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on multiplie ce chiffre par 8 et donc on arrive à un chiffre supérieur. Il y a plus d'étoiles et de planètes dans l'univers que de grains de sable. Donc c'est un chiffre astronomique, c'est-à-dire un mélange de savoir et d'inconnu.
Oh, merci Alain Siron, c'était captivant, pas vrai Eva?
Ça dure longtemps encore?
C'est fini là, à l'instant ça vient de se terminer. Et pour une fois la question vache, c'est moi qui la pose. Alain Siron,
bon
Oui, c'est moi qui la pose, j'ai envie. Ben, c'est moi qui décide.
Oui.
Eh oui. Alain Siroux.
Dictateur.
C'est la question que je vous pose à chaque fois. Vous n'avez jamais répondu. Est-ce qu'on va enfin rencontrer des extraterrestres un jour ou pas, dans ces milliards de galaxies ?
Je réponds que cette question est malhonnête, elle est mal posée et je ne tomberai pas dans le piège de la réponse facile qui mène tout droit à la démagogie et à l'anti-France.
C'est dégueulasse parce que Nelson Montfort lui m'avait dit qu'ils existaient les extraterrestres, quand même il les avait vus.
Ce sera l'objet d'une prochaine chronique.
Merci Alain Siroux, votre chronique mérite-t-elle les trois points ? Notre invité Alexis Michalik se donne le temps de la réflexion. Après avoir raflé tous les Molières pour ses pièces à succès, il revient avec son premier roman, Loin, chez Albin Michel. Eva, un mot pour donner envie à nos auditeurs d'acheter le livre.
J'ai le souvenir d'une scène de copulation entre un âne et une vache.
Non, c'était pas celui-là, c'était pas le bon livre, non. Merci, ce n'est plus une émission, c'est un combat. Que dis-je, un combat ? Une rixe, un pogo, une guerre civile. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes européens se mettent sur la gueule. Au nom de votre culture générale, un seul sera élu chroniqueur du jour. Mais la castagne n'empêche pas le bon sens. Le dîner approche et au ciel, vous avez encore oublié de faire les courses pour ce soir. Parfois en cuisine, les recettes les plus simples sont les meilleures.
Vous avez de la pâte ? Vous avez du sucre ? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus.
Délice in extremis arrive, la promesse, un plat de dernière minute simple à réaliser pour un budget limité. À tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Bonne humeur et gai savoir, vous écoutez Europe 1. L'équipe est sauvage continue, 2 heures de compétition effrénée pour élire le meilleur journaliste d'Europe 1 et également pour découvrir les secrets de star d'un invité d'honneur. Hier, c'était la présentatrice des JT Week-end de TF1, Anne-Claire Coudray, qui était avec nous. Et elle s'est énormément livrée au micro d'Europe 1, y compris sur un plan très personnel.
J'ai des boîtes de sardines dans mon placard et je fais des pâtes aux sardines régulièrement.
Et oui, les stars comme vous ne les avez jamais vues, c'est sur Europe 1 chaque après-midi dans l'équipe est sauvage. Et lui, aime-t-il les sardines ? C'est la question que vous vous posez forcément si vous avez aimé Edmond. Intramuros, le cercle des illusionnistes ou le porteur d'histoire. 4 de ses pièces seront ou sont jouées simultanément à Paris dans quelques jours. Il publie en plus un premier roman, Alexis Michalik. Vous dites « Tout le monde écrit quand il est malheureux ». Comment pouvez-vous écrire une ligne avec le succès qui est le vôtre aujourd'hui ?
Est-ce que principalement grâce à la sardine. C'est mon régime, minceur.
Et ça repart.
C'est-à-dire, comment je peux écrire une ligne encore aujourd'hui ?
Sachant que vous devez nager dans le bonheur, en tout cas professionnel.
Ouais, mais qui sait, parfois on a d'autres failles personnelles. Ah. Et puis elles nous nourrissent nos moteurs et nos envies. Et puis moi, quand je vais très bien, du coup je raconte sur le malheur des autres.
Votre roman Loin se passe en 2008. Est-ce que ça veut dire que vous avez commencé à y penser il y a déjà 11 ans ?
Tout à fait.
On calcule bien ?
Oui, tout à fait, absolument. Et d'ailleurs, le personnage principal, Antoine, il a mon âge à l'époque. Donc c'est un peu mes préoccupations de l'époque. L'identité, la quête des origines, d'où on vient, pourquoi on voyage, etc. C'était des problématiques qui me traversaient et qui sont un peu cousines aux thématiques d'un autre de mes spectacles que j'ai à peu près pensé à la même époque, qui est Le Porteur d'Histoire. Voilà, ceux qui ont préféré Le Porteur d'Histoire, je pense, aimeront particulièrement le roman.
Eva.
Vous savez que par rapport à la quête d'identité, aujourd'hui, on peut faire des tests ADN.
Bien sûr, j'ai fait, moi.
Vous l'avez fait ?
Évidemment, c'était passionnant. Bah ouais, j'ai appris que j'avais du sang viking. Je savais que j'avais déjà pas mal d'origine, mais je suis principalement anglais. L'Europe de l'Est aussi, les Balkans et puis la Scandinavie. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai des copains qui, ayant lu le roman, ont commandé leur test ADN.
Eh oui.
Parce que ça donne envie de savoir. Vous l'avez fait ou pas ?
Non,
pas encore.
Non. Moi, j'ai trop
peur de savoir. Moi déjà que les racines sont quand même douteuses entre la Corse, le Béarn, c'est quand même des régions un petit peu chaud. Dans ce livre, c'est un roman de voyage, on peut dire ça comme ça. Vous définissez 3 types de voyageurs, les locaux, les touristes et les aventuriers.
Ouais.
À quelle catégorie vous appartenez-vous ?
Je pense que je suis parfois un touriste. Quand je suis envoyé dans une ville et que, en fait, j'ai autre chose à faire, donc j'écris, donc je sors pas trop. Souvent un local, parce que j'aime bien essayer d'apprendre la langue et tout ça, me retrouver dans un endroit quand j'ai le temps. En revanche, l'aventurier, c'est celui qui va sans intention de revenir. Ça, c'est un peu trop pour moi. Mais j'ai des copains comme ça. J'ai un copain qui est parti en moto et qui est allé jusqu'en Inde. Il disait, mais t'es fou, en fait, tu vas mourir.
D'ailleurs, l'Inde est très présente dans votre roman. Notamment à la fin du livre. Est-ce que vous avez visité tous les pays que vous évoquez
dans le
roman ?
C'est une question qu'on a déjà posée au cours de l'émission, mais je n'hésite pas à
Vous savez,
une seconde fois.
Mais c'est ça qui est fort.
L'émission dure trop longtemps.
Non.
J'ai oublié.
On l'appelle Dory. Je vous présente Dory.
Je vous invite à réécouter l'émission du jour en podcast sur
europe1.fr. Tout à fait, Alexis Michalik. Vous trouverez la réponse à cette question.
On a posé cette question.
Et on peut même la repasser maintenant. On écoute.
Alors moi, je veux bien que vous écriviez quand vous êtes en voyage, mais vous n'avez pas une bibliothèque à côté d'où ? Parce qu'en l'occurrence, votre roman est hyper documenté sur tous les pays qu'on traverse. Je pense qu'il y en a une quinzaine au du compte entre
l'Europe et l'Afrique. Vous les avez tous visités, ces pays, ou vous avez voyagé par Instagram ?
Alors non, j'en ai visité une partie, et puis les autres, Instagram justement, ou Wikipédia, grâce à l'Internet.
Encore ! encore une belle prouesse, encore une belle prouesse d'Eva, dont le cerveau ne nous a pas encore livré tous ses mystères. Alexis Michalik, le génie du théâtre français, est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre dans l'équipe est sauvage, Alexis, restez bien avec nous, car j'entends votre ventre qui gargouille. Et comme on vous tient la jambe depuis tout à l'heure, à tous les coups, vous avez oublié de faire les courses pour le dîner de ce soir.
Un jour viendra, vous oublierez votre tête.
Heureusement, Europe 1 a mis en place une solution pour les têtes en l'air. Chaque après-midi vers 6h moins le quart, Délice in Extremis, arrêtez de rire Eva, Délice in Extremis vous livre une recette clé en main, facile, pas chère et qui envoie du rêve.
Des ailes de poulet frites sans poulet.
Non, encore mieux que ça, Axel, encore plus de rêve. Ce sera juste après les bébés brunes. Dis-moi sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue avec notre invité d'honneur, Alexis Michalik, génie du théâtre, Edmond, le cercle des illusionnistes, un conteur hors pair qui va maintenant en rencontrer un autre. Alexis, je vous présente Olivier Pouls, le seul journaliste gastronomique capable d'érotiser une recette de cuisine.
L'idée, c'est de prendre les figues, de couper la petite queue, de faire une incision en croix sur les deux tiers supérieurs de la figue pour pouvoir y glisser un petit morceau de feta.
C'est coquin. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Chaque jour vers 6h moins le quart, vous volez à la rescousse des étourdis qui, comme moi, ont complètement oublié de songer à une recette pour ce
Ou
soir.
Comme Eva qui a complètement oublié qu'il fallait manger peut-être.
Elle a oublié beaucoup de choses aujourd'hui, Eva.
Je suis désolée. Hein.
Ne chargeons pas la mule, ça s'appelle Délice in Extremis. Et Olivier, je vous l'avais demandé hier, une recette avec de l'estragon.
Je sais que vous aimez ça, oui. Et vous me faites plaisir parce que c'est mon herbe préférée. Bon, je vais vous parler.
On n'est pas amis pour rien.
Oh là, yes. Ouais, ça y est, elle est enregistrée, il va me la ressortir dès demain. C'est bon, ça c'est fait, c'est cadeau mon cher Mathieu. Je disais donc, c'est mon herbe aromatique préférée, l'estragon et le poulet à l'estragon. Bon, je vais vous donner la recette dans un instant, c'est un peu ma Madeleine de Proust. Et je l'ai d'ailleurs réalisé hier pour être certain que la recette fonctionnait bien.
Et vous nous l'avez apporté, évidemment.
Mais bien sûr, regardez, il est tout fumant,
ah,
il est délicieux.
Ah oui, dis donc, magnifique. Et puis dis donc, le dressage est beau. Hein.
Voilà, alors écoutez comment j'ai procédé. Pour deux personnes, deux cuisses de poulet, je préfère les cuisses plutôt que les blancs, c'est moins sec. Il vous faut un peu de crème, il vous faut un tout petit peu de vin blanc, c'est celui que vous avez ouvert pour l'apéro, hein, par exemple, vous allez en prélever un tout petit verre.
Ça m'arrive et très peu d'ouvrir des bouteilles pour l'apéro, donc je ne vois pas à quoi vous faites référence.
Bon, bah alors quelqu'un d'autre éventuellement, je ne sais pas. Une belle branche d'estragon, et puis un petit peu de fond de volaille. Alors l'idéal, c'est d'avoir du vrai fond de volaille qu'on peut trouver dans le commerce, ou le faire soi-même si on a un petit peu de temps. Voilà, donc vous allez faire dorer vos cuisses de poulet, tout simplement, pour leur donner une petite coloration. Vous mettez ça dans un plat qui va au four. Et là, c'est très simple, un petit peu de vin blanc, de la crème, votre estragon dont vous avez prélevé les feuilles que vous avez hachées grossièrement, une cuillère donc de fond de volaille, sel, poivre, vous enfournez à 170-160 degrés, pas trop chaud, pendant une demi-heure à peu près. Il n'y a plus qu'à sortir le poulet, lier un tout petit peu la sauce en la faisant un petit peu réduire. Et puis vous servez ça avec du riz. Et vous avez votre estragon, mon cher Mathieu.
Et merci Olivier Pouls d'avoir été si réactif sur ma demande sur l'estragon.
Peut-être une commande pour demain, quelqu'un autour de la table, non?
Un cerveau.
Alexis Michalik, est-ce que l'estragon est comme Olivier, votre herbe préférée?
J'hésite, non, moi c'est la coriandre.
Ah, la coriandre, moi aussi je suis fan.
Ouais, c'est bon. Demain, recette avec de la coriandre.
Et ben voilà. Un petit ceviche.
Un petit défi pour vous, Olivier.
Oh, bah tiens, bah, je vais y réfléchir.
Mais on retiendra que l'estragon est votre herbe préférée.
C'est bien bon.
Olivier Pouls, on vous retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Alexis Michalik est notre invité jusqu'à 18h pour nous parler de son premier roman, Loin, chez Albin Michel. Pour faire court, si vous avez aimé ses pièces, vous allez adorer le roman.
Europe 1.
Quatre journalistes au talent que nous qualifierons de protéiformes. Éloquence pour les uns.
Oui, un sujet d'actualité, puisqu'aujourd'hui et demain sont en train de passer.
Puissance vocale pour les autres.
C'était le pire, non.
Leur génie nous gifle et pourtant un seul sera élu chroniqueur du jour. Ne manquez pas la grande finale dans une poignée de secondes.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
À l'heure du dénouement, fatalement cruel pour les moins méritants du jour, la tension est à son comble et l'atmosphère irrespirable dans la moiteur du studio Coluche. Les journalistes en compétition tremblent à l'énoncé du verdict. Le stress est insoutenable. D'ailleurs, certains ne se maîtrisent plus.
Oui, je sais pas. Déjà qu'il y a quelqu'un qui a fait pipi dans le studio.
Vite, découvrons qui a été élu chroniqueur du jour, Eva Rock. Le vote du public.
C'est Axel de Tarlé avec les 38%.
Axel de Tarlé, 2 points pour Axel. Le leader, le lead singer du groupe Venin, faut-il le rappeler? En ce qui me concerne, mon point aujourd'hui va aller, je pense, Anissé Mbida pour moi. Ouais, Anissé Mbida, la cure de jouvence m'intéresse beaucoup. Mais le moment est venu pour notre invité d'honneur, Alexis Michalik, de voter.
C'est à moi.
Attention, votre voix compte triple. Réfléchissez bien qui selon vous, mérite d'être élu chroniqueur du jour, qui par conséquent mérite d'être sifflé à la cantine d'Europe 1 et de porter un t-shirt « Je suis la honte du journalisme français » toute l'année. Oui, Mathieu, afin d'influencer notre invité, vous souhaitiez ajouter quelque chose concernant vos collègues ?
Bah, il se drogue.
Merci. Maintenant, vous avez tous les éléments pour juger, Alexis. Là. Qui est votre journaliste coup de cœur aujourd'hui ?
Bah, écoutez, clairement, Mathieu, il a pompé un article de Sofilm, donc je ne vais pas... Anicet, très intéressant, mais bon, pour l'instant, c'est pas un sujet qui me touche de rajeunir. Pour l'instant, j'en suis sûr. Axel, bon, d'accord, effectivement, les taux négatifs, c'est pas mal, mais il y a déjà le vote du public, donc ça va être pour Alain Siroux.
Merci beaucoup. C'est Alain Siroux qui remporte cette édition de l'équipe sauvage. Mathieu Charrier, il y a une réclamation à déposer peut-être.
On fait une chronique pleine de chiffres qui n'existent pas et on remporte le vote. Il n'y a pas de souci.
Son premier roman s'intitule Loin chez Albin Michel et en cette rentrée théâtrale, 4 de ses pièces seront à l'affiche simultanément à Paris. Le petit prince du théâtre français, Alexis Michalik, était notre invité. Merci encore d'avoir joué le jeu durant ces 2 heures.
Merci à vous.
Eva, lâchez le bras d'Alexis. Qu'est-ce que vous faites? Mais laissez-le mettre sa veste.
Pourquoi tu restes pas avec nous un peu? Oui. Mais en plus, pour nous, c'est plus agréable. Hein. Mais... En plus, t'as vu, la salle de repos, elle est quand même pas mal.
Mais calmez-vous, Eva, laissez-le tranquille. C'était la 22e édition de l'équipée sauvage. Merci également à ma Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Eva Roch, Mathieu Charrier, Axel de Tarlet, Anissé Mbida, Alain Siroux. L'équipée sauvage revient demain, 16h.
L'équipée sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.